Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue sur Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété.
Bonjour, je suis Gabriel Taïeb, coordinateur et journaliste pour Podcasting.
Bonjour, je suis Jean Berthelot de l'Aglété, le fondateur et le directeur de la publication de Podcasting.
Et vous écoutez l'épisode bonus de notre série de podcasts Looking for Jacqueline. Avant de commencer, je vous encourage à aller écouter les 5 épisodes de Looking for Jacqueline pour comprendre tous les éléments de la série évoqués dans cet entretien bonus. Le 31 décembre 2022, le corps de Jacqueline P. était découvert dans son appartement de Libourne, en Gironde. Cela faisait 3 ans que la septuagénaire était décédée, sans que personne ne s'en rende compte. Jean, vous êtes parti pour Podcasting à la rencontre de ses voisins, des commerçants du quartier, des pouvoirs publics, de sa famille, pour tenter de comprendre comment ce fait divers a pu arriver et les leçons que les uns et les autres en tirent. Mais aussi pour redonner, je vous cite, « une forme d'humanité à la fin de vie de Jacqueline P. ». Après environ 10 mois d'enquête et la diffusion de 5 épisodes de podcast, donc, est-ce que vous avez ce sentiment, celui d'avoir contribué à accorder à Jacqueline P. une forme de dignité dans la mort ?
Alors, c'est peut-être un peu trop ambitieux que d'avoir ce sentiment-là, ou peut-être trop prétentieux de l'avoir. Je crois en tout cas que l'on a contribué à faire en sorte que cette injustice et cette fin de vie qui a été finalement tellement coupée de l'humanité, eh bien, on ait pu peut-être contribuer un tout petit peu à la rendre moins douloureuse, en tout cas, à ce que son souvenir s'estompe un peu moins que, voilà, la dame de la rue Gambetta qui est parti depuis 3 ans et dont personne ne s'est soucié. Je crois qu'on a redonné sinon un visage, en tout cas d'abord un prénom et puis une histoire aussi à cette dame-là, et donc de cette manière-là, peut-être qu'on a contribué à remettre un peu d'humanité dans tout cela, en toute humilité, parce que on a essayé de faire un travail honnête et correct, mais évidemment on sait très bien qu'on ne change pas le monde sur ces choses-là et que ce genre de fait divers arrivera à nouveau, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, sur cette histoire particulière et précise, peut-être sur une forme de réflexion aussi, on a eu l'impression d'avoir fait utile, même si cette œuvre-là, c'est toute petite cuillère dans l'océan, c'est vraiment rien, bien évidemment, mais en tout cas, on a cette petite satisfaction-là, oui, une fois le travail terminé.
Pour vous, il était très important de préciser à chaque occasion que vous ne souhaitiez pas porter de jugement sur Jacqueline, ni même sur son entourage, mais même en tant que journaliste, on peut difficilement ignorer ses propres biais cognitifs. Est-ce que vous avez eu, parfois, des doutes quant à votre approche du sujet ?
Oui, forcément, du début à la fin, on se demande jusqu'où on peut aller dans le fait de raconter cette histoire-là, on se demande quels détails on peut donner, parce qu'il y a évidemment beaucoup de détails que j'ai appris que je n'ai pas donné, parce que pour moi, ça relevait vraiment d'une telle intimité que c'était pas utile de les donner, c'était pas utile pour la compréhension de l'histoire. J'ai donc essayé de donner des détails de sa vie qui m'ont été transmis avec évidemment l'accord donc de sa famille, mais ces détails-là, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient utiles à la compréhension de ce drame et non pas qu'ils soient des détails voyeuristes. Mais cette frontière-là, et d'ailleurs on évoque ces dilemmes dans l'épisode consacré aux journalistes, cette frontière-là entre le voyeurisme et ce qui va être utile, voire indispensable à la compréhension de ce drame, eh bien, elle est forcément ténue, et puis tout le monde n'en a pas la même vision, et c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Donc oui, bien sûr qu'il y a eu des questions qui se sont posées tout au long de ce travail-là, qui se sont posées pour moi, que j'ai partagées pour certaines avec Agathe, avec vous Gabriel, tout au long de la fabrication de ces épisodes. Elles ne sont pas résolues, je suis parfaitement apte à entendre que sur tel ou tel point, on n'aurait pas dû faire ci, ou on aurait dû faire cela, évidemment, mais on a essayé de le faire avec le respect de la personne qu'elle était, avec le respect des principes déontologiques aussi qui régissent notre travail de journaliste.
En fil rouge de notre série, vous avez choisi de laisser la parole à Joël Bégueret, vice-président de l'association Le Pain de l'Amitié à Bordeaux et membre du collectif Clarté qui accompagne les morts isolés. Pourquoi avoir fait ce choix de lui laisser une telle place ?
On lui a laissé cette place parce que, d'abord, des collectifs qui accompagnent des personnes dont personne ne réclame les corps, il n'y en a pas 50 000, et ça me paraissait vraiment intéressant d'entendre ce que lui avait à dire sur cette affaire particulière, et puis évidemment beaucoup plus globalement sur ce problème, qui est quand même un problème récurrent, hein, parce que évidemment là, ce qui pose question, c'est la durée, 3 ans, entre la mort de Jacqueline P. et la découverte de son corps, c'est énorme, mais des corps que l'on retrouve sans que personne ne se soit inquiété de leur absence pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains cas, ou plusieurs mois, ça arrive un petit peu plus fréquemment. Et donc, je voulais entendre ce que M. Bégueret avait à en dire, d'autant plus qu'il préside aussi, en tout cas il est dans le comité directeur du Pain de l'Amitié à Bordeaux, qui est une association qui vient en aide aux personnes démunies, aux personnes aussi qui sont un peu désocialisées. Et donc, d'une certaine manière, il rencontre ces personnes-là qui sont susceptibles peut-être un jour de devenir des morts isolés. Et donc, pour moi, son expertise là-dessus, sa connaissance du sujet était vraiment fondamentale. Je savais pas forcément en allant le voir que j'allais en faire un fil rouge, mais vous savez, quand on va voir quelqu'un comme Monsieur Bégueret, on a une impression peut-être d'évidence, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui dégage énormément de bonté, énormément de sagesse. Et donc j'étais très content d'en faire le fil rouge, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de lui laisser la parole presque à tous les épisodes, en tout cas d'en faire ce conducteur-là.
Jean, nous le découvrons dans l'épisode 5 de notre série. La fille de Jacqueline a accepté de répondre à vos questions hors micro. C'est pourquoi, avec son accord évidemment, nous avons fait lire son témoignage par notre journaliste Agathe Hernier. Est-ce qu'elle vous a fait un retour sur la série de podcasts ou souhaitait-elle se tenir à distance de tout cela ?
Alors, pour tout vous dire, j'ai indiqué évidemment à Nathalie que le podcast allait sortir. Pour le moment, je n'ai pas eu de retour de sa part. Je ne l'ai pas encore relancé, je ne lui ai pas demandé si elle l'avait écouté, ce qu'elle en avait pensé. Voilà, j'hésite encore sur la marche à suivre, j'avoue, je ne sais pas si ce serait délicat ou pas de ma part de revenir vers elle avant qu'elle le fasse. Donc, en tout cas, pour le moment, je n'ai pas eu de nouvelles de Nathalie depuis la diffusion de la série, donc je ne sais pas ce qu'elle en a pensé.
Pour cet épisode bonus, nous avons également préparé un florilège de questions posées par nos auditrices et nos auditeurs via notre serveur privé Discord. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez le rejoindre grâce à un simple don sur notre cagnotte en ligne J'aime l'info. En plus de nous soutenir, cela vous permet d'écouter nos podcasts 2 jours avant leur sortie officielle et d'échanger en direct avec toute notre équipe. Tout d'abord, Jean, la question d'un auditeur qui se demande si la mairie de Libourne a mis en place de nouveaux dispositifs pour éviter des cas similaires à celui de Jacqueline ou non.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, le maire de Libourne, Philippe Buisson, le dit dans l'épisode où il prend la parole. D'abord, je dois préciser que c'est un élu que j'ai senti très affecté quand même, et très sincèrement affecté par cela, lui, mais aussi son conseil municipal, et je parle pas uniquement de l'adjoint qui était de garde ce jour-là, qui a été, lui, vraiment marqué par ce qu'il a trouvé, hein, puisque dans ces cas-là, comme le rappelait le lieutenant-colonel de la gendarmerie, eh bien, l'adjoint est appelé. Donc, j'ai senti Philippe Buisson très affecté par cette situation, et comme il l'explique, eh bien, il y a de nouveaux protocoles qui se mettent en place pour, justement, essayer d'aller à la rencontre des personnes âgées isolées, essayer de mieux les suivre et de faire en sorte qu'ils soient mieux accompagnés et qu'on s'inquiète éventuellement de leur absence, comme ce que préconise aussi Joël Bégueret dans l'un de nos épisodes. Maintenant, la difficulté, c'est quand une personne âgée isolée ne souhaite pas, eh bien, tout simplement se déclarer à la mairie, c'est compliqué. Comment peut-on faire ? Alors, Monsieur Buisson parlait aussi d'un partenariat avec La Poste. Si on voit, par exemple, du courrier s'accumuler, eh bien, on peut se poser des questions, et peut-être que La Poste peut donner l'alerte à la mairie, c'est ce qui est en train de se mettre en place à Libourne. Voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place à la suite de ce fait divers, et je pense que c'est une bonne chose, et je pense que pas mal de villes pourraient réfléchir à cela.
Une auditrice nous demande ensuite quels sont les principaux arguments des écoles pour et contre fouiller l'histoire d'un sujet qui fait la une. Où se situe le plus souvent la limite entre exposition légitime, voire réparatrice, et intrusion dans l'intimité ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le code à suivre, c'est celui de la déontologie. Est-ce que l'on va trop loin ? Est-ce que l'on révèle des détails qui ne sont pas indispensables à l'histoire ? Est-ce que l'on va donner des détails, par exemple, sur la façon dont le corps de Jacqueline P avait été putréfié ou momifié. Non, ça, on a essayé d'en donner le moins possible. On n'a pas fait de description très précise. Mais par contre, ça nous paraissait indispensable d'expliquer pourquoi les voisins n'avaient pas été alertés par l'odeur. Et donc là, on a dû donner des détails un peu difficiles. Et voilà, c'était utile à l'histoire. Ça ne, de mon point de vue, ça ne bafouait pas une intimité particulière. Il y a des détails de son histoire, de sa vie, qui, de mon point de vue, n'avait pas vocation à être rendu public parce que sa vie pouvait être comprise sans ces détails-là, et donc que je n'ai pas dévoilé dans le dernier épisode. Donc c'est une frontière, encore une fois, hein, qui est vraiment ténue. Il y a peut-être des gens à l'écoute qui disent « ben ça, pour moi c'est trop intime, ça n'a pas sa place dans un récit publié ainsi », et puis d'autres qui peuvent imaginer que ben, on aurait pu donner plus de détails sur telle ou telle partie de sa vie. Voilà, on a essayé de chercher un équilibre, et j'espère qu'on l'a trouvé, en tout cas, à mes yeux, on l'a trouvé.
Vous avez fait plusieurs références à la déontologie journalistique, et c'est un sujet qui a d'ailleurs interrogé plusieurs de nos auditrices et de nos auditeurs. Est-ce qu'il existe une charte particulière et librement consultable ?
Oui, absolument. Dans le métier, ce qui fait référence, c'est une charte qui s'appelle la charte de Munich, qui existe depuis 1971, et elle définit de manière assez simple, hein, 10 devoirs et 5 droits des journalistes. Et parmi ces devoirs, pour ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, il y a notamment publier seulement des informations dont l'origine est connue ou les accompagner des réserves qui s'imposent si c'est nécessaire, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations et s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Voilà, donc on a essayé de respecter évidemment ses devoirs. Alors respecter la vie privée des personnes tout en donnant des informations qui permettent de comprendre ce drame. Ça a été quelque chose qui nous a guidés et qui est forcément un petit peu compliqué. J'ajoute juste, Gabriel, qu'il existe depuis quelques années un conseil qui s'appelle le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, et qui est, comme son nom l'indique, une instance de médiation entre les journalistes, les médias, les agences de presse et puis le grand public. Qu'est-ce que c'est très concrètement ? Eh bien, on peut demander à ce conseil, en étant simplement une auditrice ou un auditeur, en l'occurrence de podcasting, on peut demander à ce conseil, voilà, est-ce que la déontologie journalistique, de votre point de vue, a été respectée dans tel ou tel article ou dans tel ou tel podcast pour ce qui nous intéresse ? Et là, le conseil se saisit de ce travail journalistique et va tenter d'établir si, oui ou non, les règles déontologiques ont bien été appliquées. Il faut préciser que ce conseil n'a pas le pouvoir de sanctionner, il donne simplement un avis qui voilà, est publié et qui est consultable par tout le monde au bout de quelques jours après que l'affaire lui a été confiée.
Toujours dans le domaine de la déontologie, une auditrice se demande également s'il est fréquent que le corps médical refuse de livrer des éléments d'une affaire au nom du secret médical.
Oui, oui, absolument. Dans cette affaire-là, il y avait plusieurs difficultés. L'une des difficultés était de parvenir à faire parler les gendarmes, parce que ils ne sont pas toujours enclins à le faire, et je les en remercie d'autant plus. Et puis, bien évidemment, il y a l'hôpital. Alors, l'hôpital se retranche très souvent derrière le secret médical, ce qui est parfaitement compréhensible. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas ici. Enfin, plus précisément, on n'a pas eu de réponse à nos demandes, pour être tout à fait précis. Donc, on n'a pas su pour quelle raison l'hôpital ne souhaitait pas nous répondre. Mais on présume que c'est au nom du secret médical. On peut parfaitement l'entendre. Alors, moi, j'avais proposé à ce que des dirigeants de l'hôpital prennent la parole de manière plus large, hein, peut-être, pour savoir notamment pour les malades atteints d'un cancer et en phase terminale, difficilement curable, eh bien, pour savoir s'il y avait un suivi qui était quand même possible et s'il était possible de faire évoluer les choses pour se rendre compte qu'une patiente en phase terminale qui ne vient plus est peut-être morte. Voilà, j'aurais aimé poser ces questions, mais sur ces questions d'ordre plus général, de la même manière, l'hôpital n'a pas souhaité nous répondre.
Pour cette série, votre travail consistait en grande partie à faire la lumière sur de nombreuses zones d'ombre. Pour vous, quelles sont les questions qui persistent et n'auront probablement jamais de réponse ?
Parmi les questions que je continue de me poser, ça concerne finalement principalement les voisins. Moi, je reste quand même très étonné par le fait que personne n'ait été frappé à sa porte alors qu'on la savait atteinte d'un cancer. On peut être étonné effectivement par le facteur qui continue de mettre des prospectus, mais sans doute c'est des facteurs qui changeaient et qui n'étaient pas forcément au courant de la situation de cette personne-là. Et pareil d'ailleurs pour les voisins, c'était peut-être des gens qui se sont dit « bon, bah, malheureusement, elle est morte et puis c'est comme ça et l'appartement n'est pas reloué ». Enfin, je veux dire, à aucun moment je ne condamne une personne ou une autre, mais voilà, je me pose des questions et les questions que je me pose en fait sont beaucoup plus personnelles que professionnelles, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que moi j'aurais été capable, en vivant à 3 mètres ou sur le même palier que Jacqueline, est-ce que moi j'aurais été capable de poser les bonnes questions, d'aller frapper à sa porte? Est-ce que si j'avais été postier, je me serais posé la question? Si j'avais été commerçant et qu'elle venait tous les jours, je la voyais plus venir, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, sans doute pas mieux que la plupart des gens de cette affaire-là. Et donc, la question au-delà de ça que cela pose, c'est, il y a des gens qui sont malades, qui sont isolés, comment on peut mieux les prendre en charge? Et c'est surtout cette question-là qui se pose. Je crois qu'il y a quelques pistes qui sont avancées par les personnes qui sont interviewées, et que c'est surtout là-dessus qu'il est intéressant de réfléchir.
Jean Berthelot de Lagleté, merci. Tous les épisodes de Looking for Jacqueline sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute.
Merci Gabriel, et je précise que cet épisode bilan, en quelque sorte, ou bonus, qui revient sur la série que nous venons de terminer, eh bien c'est un format que l'on va retrouver sur toutes les séries que nous lancerons, et on espère en lancer beaucoup. Podcasting est un média fragile, comme beaucoup de nouveaux médias. On espère en tout cas qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis c'est aussi une manière de renouer un peu, de faire un clin d'œil à ce que fut Podcasting, à la formule éditoriale, durant les 3 premières saisons.
Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser de bonnes notes sur votre plateforme préférée, à partager nos épisodes et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.